Continuons de lire l'Écriture sainte et nous sommes dans les récits de Noël. Donc, ouvrons dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 6. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Et maintenant dans l'Évangile de Luc, juste deux versets au premier chapitre, dans le contexte de la venue de l'ange vers Marie pour lui annoncer l'enfant qu'elle attendra miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit, versets 32 et 33. « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Et lisons maintenant une prophétie concernant ces choses. Jérémie 23, verset 5. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais lisons déjà une prophétie qui concerne Noël, qui concerne Jésus-Christ. Jérémie 23, 5. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays.
Un royaume sans roi. Un royaume sans roi peut devenir chaotique. Parce qu'il faut en fait un souverain qui gouverne, qui guide, qui protège. On pourrait dire que notre tête a besoin d'un roi. Sinon, toutes nos pensées peuvent être chaotiques. Et le seul qui a la capacité de gouverner ses pensées, de gouverner nos cœurs pour que nous puissions comprendre la parole, c'est l'Esprit de Dieu, et nous comptons sur son règne ce matin encore dans nos cœurs pour comprendre sa parole. C'est la période de Noël. Noël est un moment propice pour parler de Jésus-Christ, et nous n'allons donc pas nous en priver, évidemment. Puisque, pourquoi ne pas parler de la personne que nous aimons le plus au monde? Et si dans cette période nous parlons particulièrement de la naissance de Jésus, j'aimerais aujourd'hui nous aider à comprendre que ce petit enfant que l'on voit dans la crèche est en fait un roi. Un roi. Afin de structurer un petit peu notre réflexion par rapport à ce roi, nous allons donc structurer cela en quatre parties. Si vous retenez quatre mots, vous pouvez retenir toute la prédication. Nous allons d'abord parler du roi annoncé. C'est le mot annoncé, le roi annoncé. Ensuite, nous verrons que le roi est différent. Il est différent. Il contraste particulièrement d'ailleurs avec le roi de cette époque où il est né. Troisièmement, nous constaterons que le roi a été rejeté. Il a été rejeté. Mais nous nous réjouirons quatrièmement parce que nous verrons que ce roi qui vient de naître est victorieux. Victorieux. Donc un roi annoncé, un roi différent, un roi rejeté et un roi victorieux est né. Et le titre de cette prédication est tout simplement « La naissance du roi ». ou la naissance d'un roi. Par rapport à l'annonce, vous savez peut-être, sinon je vous l'apprends, qu'il existe encore actuellement 12 monarchies en Europe. 12 monarchies en Europe, dont 10 sont héréditaires. Je vous donne quelques exemples, hein. Par exemple, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec à sa tête la reine Elisabeth II. Ou le Royaume d'Espagne, avec le roi Felipe VI, je crois. Je sais pas si ça se dit juste. Ou bien la Principauté de Monaco, avec le prince souverain Albert I. Ou encore le Grand-Duché de Luxembourg, avec le Grand-Duc Henri. Et en fait, dans toutes ces monarchies héréditaires, la descendance revêt une importance tout à fait particulière. Ce qui fait que la naissance du futur souverain est si importante. Qui n'a pas suivi, ou au moins entendu parler, des enfants du prince William en Angleterre? C'est connu, loin à la ronde. Et pourtant, ces enfants n'ont pu être annoncés que maximum 9 mois avant. Les mages d'Orient, arrivés chez Hérode, avaient aussi reçu une annonce avant la naissance du roi. Mais l'étoile et la naissance du roi étaient annoncées avec certitude des centaines d'années à l'avance. Et ce n'est le cas pour aucun roi, aucun autre roi que Jésus-Christ. Nous lisons dans Nombre 24:7, « Je le vois, mais non maintenant. » Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Dans ce texte des Nombres, on a le lien entre l'étoile et le roi. Tout à fait clairement. La naissance de ce roi n'est pas une surprise. La naissance de ce roi n'est pas une surprise. De nombreux textes l'annonçaient. Je vais vous en lire quelques-uns. Roland dit tout à l'heure qu'il y en aurait beaucoup. Je vais quand même en lire quelques-uns pour qu'on puisse vraiment saisir ce que cela signifiait. Ésaïe l'a clairement annoncé, il parle de souveraineté, de prince, de trône, du trône de David, de royaume. Il annonce la naissance d'un roi. Je vous lis dans Ésaïe 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ésaïe annonçait cela bien des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Daniel, d'ailleurs, lui-même, voit celui qu'il nommera le Fils de l'Homme. Le Fils de l'Homme. Et il y a un personnage dans l'histoire qui s'est appelé lui-même le Fils de l'Homme. C'est qui c'est? C'est Jésus-Christ. Dans les 4 évangiles, on retrouve cette expression. Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'Homme. Et c'est en lien avec ce que Daniel voit ici. Et Daniel voit qu'on lui donnera la domination, la royauté. Voici ce qu'il est dit dans Daniel 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur la nuée du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Michée, d'ailleurs, annonçait clairement d'où viendra celui qui dominera sur Israël. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent au lointain passé, au jour d'éternité. » Ou encore un dernier exemple, Zacharie, qui est un prophète, un des derniers prophètes avant le temps de Jésus-Christ, puis c'est un prophète après l'exil, qui dit ceci, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ça vous rappelle une histoire? Mais si vous lisez Matthieu 21, vous verrez que Jésus, ce bébé dans cette crèche qui a grandi, a exactement accompli ce que Zacharie avait annoncé 400 ans avant. C'est ce que Jésus, qui vient de naître, que les mages d'Orient cherchent, va accomplir. Ce Jésus est roi. En fait, je vais vous dire, quelle est la phrase du texte biblique pour ce culte? C'est Matthieu 2:2, où il est dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» C'est vraiment ça qui va nous marquer. C'est là que je me suis arrêté, pour ça que je parle de ce roi qui vient de naître. L'annonce de Jésus a été faite de manière glorieuse par des anges qui sont venus l'annoncer. Les bergers l'ont entendu, ils ont vu la gloire, ils sont allés vérifier et ils ont tout raconté ce qu'ils ont vu. En fait, si on prend un petit peu les quelques éléments, hein, une étoile dans le ciel annonce le roi et amène des mages d'Orient. Tout le monde pouvait le vérifier. Des anges annoncent la grande nouvelle de la naissance du roi. L'annonce peut être vérifiée à Bethléem, les bergers sont allés. Et l'Écriture annonce que c'est dans cette ville que viendra le Messie, le roi promis, le descendant de David, à Bethléem. Tous les théologiens de l'époque étaient d'accord. Des preuves irréfutables pour celui qui n'est pas détourné de la vérité par la manipulation ou par la pression. Aujourd'hui, si un enfant de roi naît, des journalistes seront sur place, évidemment. Ils prendront des photos, transmettront toutes les informations possibles concernant ce nouveau-né et tout ce qui entoure cette naissance. Hérode n'a pas accompagné les mages. Il n'a même envoyé personne avec eux. Et il ne nous a même pas dit si quelqu'un de Jérusalem était allé avec ses mages. C'est même probable que personne, peut-être une ou deux personnes, sont allées seulement. Pourquoi ? C'est une question à vous poser. On revient maintenant à cette époque, aujourd'hui, 2018. Savez-vous ce matin qu'en entrant dans ces lieux ici, dans ce lieu de culte, vous entrez dans la présence d'un peuple qui appartient à un royaume et qui a un roi? Saviez ça? Et ce roi, c'est celui que les mages sont allés adorer en Palestine. C'est ce roi qui a grandi, qui a donné sa vie pour son peuple, qui est ressuscité et qui est maintenant vivant, c'est notre roi. C'est notre roi. Alors, il n'est actuellement pas là physiquement, c'est vrai, mais son esprit est là et il nous annonce qu'il reviendra bientôt. L'étoile a annoncé qu'il était né, sa parole. Et moi, aujourd'hui devant vous, vous annonce que Christ reviendra. Si la naissance du roi a été annoncée, son retour est aussi annoncé. Es-tu prêt à le rencontrer? Feras-tu comme les mages qui cherchent à l'adorer? Oui, je veux le connaître déjà maintenant pour pouvoir l'adorer quand il viendra. Ou comme les habitants de Jérusalem, ne t'en soucies-tu pas vraiment? Oui, c'est vrai que Jérusalem était troublée à la question des mages. Hein. Franchement, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il va chez Hérode, il n'y a pas eu de naissance à ce moment-là. C'est très troublant, c'est vrai. Mais j'aimerais juste vous dire en passant que les mages ne viennent pas s'enquérir pour savoir est-ce que quelqu'un est né. Non, non, non. Pour les mages, c'est clair, il est né. En fait, ils viennent le trouver. Il s'agit de savoir où il est. C'est quand même étrange hein, que le roi, le grand roi de l'époque, Hérode le Grand, ne sache pas où se trouve le roi qui vient de naître. C'est vraiment étonnant. Eh bien, notre prochain point va nous aider à comprendre pourquoi il n'était pas au courant. Ce prochain point, c'est un roi différent. Vous savez, Hérode, c'est un tyran. Un tyran. Et tous les historiens sont unanimes pour dire que c'est quelqu'un qui était cruel, qui a été prêt à mettre à mort sa propre femme et ses fils pour garder le pouvoir. Hérode est un menteur. Il dit aux mages qu'il va aller adorer le roi des Juifs. Mon œil, c'est pour l'éliminer. Hérode n'est pas aimé par ses sujets. Les Juifs n'attendent qu'une chose, qu'Hérode disparaisse. Hérode ne connaît pas vraiment Dieu, ni sa parole. C'est quelqu'un que l'on qualifierait peut-être de terre à terre, hein, qui fait des grandes choses, il a fait des grands bâtiments, enfin, c'est vrai qu'il a fait construire le temple aussi, mais c'était pour la construction, c'était pas pour Dieu. le roi qui vient de naître est très différent d'Hérode. Le roi qui vient de naître est très différent d'Hérode. Ce n'est pas un tyran. Il ne va pas tuer pour garder le pouvoir. Il ne commettra jamais de meurtre. Il va plutôt donner sa vie pour sauver son peuple. Ce roi qui vient de naître dira toujours la vérité. Toujours. Toujours. Jamais il ne mentira pour mieux garder son pouvoir. Et ce roi qui vient de naître, en fait, est déjà aimé par ceux qui le connaissent déjà. En fait, tous les anges dans le ciel le connaissent déjà et ils attendent que le départ du chef d'orchestre pour chanter la gloire de Dieu devant les bergers. Ils étaient impatients de chanter la gloire de ce roi qui vient de naître. Ils l'aiment tellement. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'il va faire, comment il va accomplir le salut, etc. Et ce roi sera aimé par tous ceux qui entreront dans son royaume sans aucune exception. Tous ceux qui font partie du royaume de Christ aiment leur roi, tous. Mais c'est vrai que ce roi n'a pas un royaume dans ce monde. Il le dira lui-même à Pilate d'ailleurs. C'est écrit dans Jean 18, je vous le lis. Donc il parle à Pilate. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et pour entrer dans ce royaume, eh bien, il faut naître de nouveau. On pourrait dire, il faut naître dans ce royaume. Si on est né dans ce royaume, eh bien, on en fait partie et nous aimons ce roi. Le royaume de la paix, le royaume du bien, le royaume de la vérité, ce royaume, le Nouveau Testament l'appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Le roi qui vient de naître est déjà roi, c'est vrai. Il est déjà roi sur toute la création parce qu'il est en même temps Dieu et en même temps homme. Donc en tant que Dieu, il est le roi sur toute sa création, c'est évident. Et en tant qu'homme, il va devenir roi. Il va devenir roi. Il sera roi, la tête, le chef de son peuple, de ceux qu'il sauvera en donnant sa vie pour eux. C'est pour cela que ce roi est né. Pour glorifier son Père en accomplissant parfaitement sa volonté et en venant sauver ceux qui font partie de son royaume. Ah, j'ai une petite question. Les enfants, peut-être que vous arrivez à répondre. Hein. Combien de temps dure le royaume de quelqu'un? Pendant combien de temps est-ce qu'il est roi d'habitude? Ah, c'est pas facile. Hein. Je vais vous aider. Ben, en principe, sauf destitution, hein, mais ici, il n'y a pas de destitution possible. Eh bien, il va vivre jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'est ça le temps en fait. Donc s'il vit très longtemps, il est très longtemps roi. Puis s'il vit pas très longtemps, ben il est pas très longtemps roi. Voilà. D'ailleurs, juste par rapport à actuellement, hein, vous savez que la reine d'Angleterre est en train de battre les records en fait de longévité, en tout cas en Grande-Bretagne. Il y en a qui ont régné plus longtemps. Mais il en est quand même à sa 66e année actuellement de règne. C'est long, hein. Bon, puis les enfants, 66 ans, c'est vraiment long, hein. C'est vrai. Mais quand elle va mourir, son règne va s'arrêter. Mais vous savez quoi? Notre roi, Jésus-Christ, est ressuscité et il ne meurt jamais. Jamais! Donc son règne est éternel. Il n'a pas de fin. Il ne va pas s'arrêter. C'est ce qu'on a lu avant dans Luc, hein, quand l'ange a parlé à Marie. Il a dit que son règne n'aura pas de fin parce qu'il est toujours vivant, parce qu'il ne meurt plus jamais. Si nous reprenons les différences entre Hérode et Jésus, le roi qui vient de naître, ce nouveau roi, donnera sa vie pour son peuple. Ce roi donnera sa vie pour son peuple. Il dira toujours la vérité. Il sera aimé par tous ses sujets. Aimé par tous ses sujets. Il n'a pas de royaume de ce monde. Et son règne n'a pas de fin. Donc ce nouveau roi donnera sa vie pour son peuple, dira toujours la vérité, sera aimé par tous ses sujets. Il n'a pas un royaume dans ce monde et son règne n'a pas de fin. Une question que j'aimerais vous laisser à chacun, c'est est-ce que vous avez un roi qui ressemble au roi que nous pouvons trouver dans l'histoire et dans le monde? Ou est-ce que vous avez un roi différent? Est-il différent, votre roi? Êtes-vous attaché aux valeurs d'un royaume qui ne pense qu'à ce qui est sur la terre? Ça, c'est comme tous les rois, en fait. Ou êtes-vous attaché aux valeurs spirituelles qui surpassent toutes ces choses qui sont sur cette terre et d'ailleurs qui leur donnent un sens pour le court moment où nous pouvons en profiter? Pour donner un exemple concret, est-ce que nous sommes plus attachés à la vérité ou aux bénéfices que l'on pourrait faire en cachant certaines avaries de la voiture qu'on va vendre? Est-ce qu'on est plus attaché à la vérité ou aux bénéfices? Quel est notre roi, en fait? Quelles sont les valeurs? De quel royaume vivons-nous? Ou bien pour les enfants, est-ce que tu es plus attaché à obéir à tes parents ou à Dieu ou à... parce que les copains te disent, ben, à voler quelque chose, ou bien à taper sur quelqu'un d'autre, ou bien à se moquer de l'autre. Parce qu'au moment où on le fait, on est en train de dire, ben, je suis en train de vivre selon le royaume de ce monde et pas selon le royaume du roi de gloire. Eh bien, la réponse à ces questions nous permet de voir si nous avons des attitudes qui accueillent ou qui rejettent le roi qui vient de naître et que les mages sont venus adorer. Le roi rejeté, c'est notre troisième point. On n'a pas trouvé de place pour sa maman qui devait accoucher. C'est dans une écurie qu'elle l'a mis au monde. Or aujourd'hui, les journalistes feraient un article choc. Par exemple, le titre « Né dans la Beuse, les gens chantent pour lui ». Ah ouais, c'est un titre choc ça, non ? Né dans la Beuse, les anges chantent pour lui. Puis après, il passerait un autre article en disant « Les bergers encore en grève ». Puis ensuite, il dirait « Hérode destitue encore un prêtre ». Puis il passerait peut-être encore sur l'article « La réforme grammaticale de l'hébreu ne verra jamais le jour ». Et la naissance du roi est totalement oubliée. L'oubli, c'est une forme de rejet. L'oubli, c'est une forme de rejet. L'inattention, ne pas être attentif. L'inattention, c'est une forme de rejet. La mise à l'écart. On ne veut pas de toi, bien joué. Voilà, je m'écarte. C'est une forme de rejet. Et le mépris. Oups, qu'est-ce que c'est? Un petit enfant né dans une crèche. Le mépris. C'est encore une autre forme de rejet. Si je venais vous dire maintenant que dimanche prochain, 23 décembre, le Conseil fédéral viendra à l'église à 14h pour discuter avec vous, avec nous. Parce que réellement, ils veulent notre bien, ils veulent voir s'enquérir de la situation que nous vivons. Et pourquoi pas construire un bâtiment, je sais pas, en passant. Hein. Eh bien, oubliez d'y venir. Ah, j'oublie d'y venir. Ou ne pas y prêter attention. Ou encore mettre cette annonce de côté. Ou encore... mépriser cette annonce du Conseil fédéral, c'est le rejeter. Ah, c'est vrai que parfois on peut être perturbé, d'autres choses arrivent et puis on n'entend plus ce qui est dit. Puis on se rappelle plus, ah oui, ils n'avaient pas dit non. Non, mais attendez, je vais vous leur dire. Oubliez d'aller à cette rencontre du Conseil fédéral, qui est fictive, hein, si jamais, mais c'est pour l'illustration. N'y pas prêter attention, ou mettre cela de côté, ou même le mépriser. Eh bien, c'est en fait simplement rejeter ceux qui nous invitent. Soit ce roi que les mages d'Orient sont venus visiter est accueilli, soit il est rejeté. En fait, ne pas y prêter attention, c'est pas de la neutralité, c'est du rejet. Si vous recevez un biscuit qui vous est proposé, eh bien, si vous l'accueillez, vous le mangez. Évidemment, vous pouvez le prendre et ne pas le manger. Et dans ce cas-là, vous avez fait quoi avec ce biscuit? Vous l'avez rejeté, même si vous l'avez pris. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de neutralité face au roi qui est né à Bethléem, qui a grandi, qui a accompli le salut pour son peuple. Ce roi est rejeté par ceux qui ne le reconnaissent pas. Mais il est accueilli par ceux qui comprennent, qui sont perdus, que le péché les a vaincus et que ce roi est justement venu pour les délivrer de ce royaume de mort. Il est venu délivrer. Et c'est notre dernier point, un roi victorieux. S'il a été annoncé, s'il est différent, s'il a été rejeté, mais j'aimerais quand même qu'on termine sur cette notion que c'est un roi victorieux. Un roi victorieux. Et en lisant l'histoire de la naissance de Jésus à Noël, nous pouvons parfois rester dans la mangeoire, hein, et ne pas comprendre que ce bébé a grandi. Mais le bois n'était pas seulement le lit du bébé. Le bois est devenu son lieu de victoire à la croix. Si les mages ont dit « Où est le roi des Juifs ?» Hein, vous vous rappelez, c'est la question qu'ils ont posée. « Où est le roi des Juifs ?» C'est intéressant de voir que cette phrase « Le roi des Juifs » revient à un moment tout à fait particulier quand Pilate dit « Vous écrirez au-dessus de sa tête sur la croix « Celui-ci est le roi des Juifs. » Mais est-ce que c'est vraiment une victoire d'être supplicié sur une croix ? Je peux comprendre qu'on se pose la question. Est-ce que c'est vraiment une victoire ? Eh bien, pour toute autre personne que lui, ce ne serait pas une victoire. Pour toute autre personne que Jésus-Christ, ce ne serait pas une victoire. Mais pour le seul juste, celui qui n'a jamais péché, celui qui pouvait prendre sur lui le jugement qui devait tomber sur les autres, pour ce roi qui était dans la crèche, ce roi que les mages sont venus adorer, pour ce roi qui est venu livrer le combat le plus terrible pour son peuple, pour ce roi, la croix est un lieu de victoire éclatante. Éclatante. C'est vrai, on parle souvent de sa résurrection. Et sa résurrection, en fait, va affirmer, appuyer, souligner, confirmer cette victoire sur le péché. Cette victoire, il l'a acquise à la croix. Le péché est expié. Le prix a été payé. L'amour et la justice ont été manifestés. Le sang a coulé. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Apocalypse 12, ce livre de la Bible qui parle de la royauté victorieuse de Christ. Hein, là, on peut faire toute une prédication, une série d'ailleurs, on en a une sur l'Apocalypse, qui parle de la royauté de Christ. Il est écrit, « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, écoutez bien, à cause du sang de l'agneau. » C'est la victoire. C'est la victoire. Ce roi a gagné la bataille. La pire, la plus atroce contre le mal et contre le péché. Jésus-Christ est un roi victorieux qui délivre son peuple. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour tous ceux qui viennent dans son royaume. Jésus-Christ est un roi victorieux qui délivre son peuple, qui conduit son peuple, qui protège son peuple, qui pourvoit aux besoins de son peuple. C'est tout ce qu'un roi doit faire, en fait. Et il l'a fait et il le fait encore aujourd'hui. C'est un roi victorieux qui délivre son peuple, qui conduit son peuple, qui protège son peuple, qui pourvoit aux besoins de son peuple. En fait, rien ne manque dans le royaume spirituel de Christ, qui sera bientôt manifesté lors de son retour, où tout le monde, sans aucune exception, fléchira le genou devant la souveraineté de Christ. Est-ce que nous sommes conscients que notre roi, celui qui est le Seigneur, le souverain de l'Église, est un roi victorieux? Sommes-nous conscients de cela? C'est très important. C'est très important. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous vivrons une vie de défaite. Une petite histoire que j'ai lue, que j'ai trouvée assez intéressante, en lien avec cette confiance en la victoire. Un haut gradé de l'armée était prisonnier des Allemands. C'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, il entendait un peu des nouvelles et il a compris que les Alliés arrivaient et allaient gagner la guerre et que l'armée victorieuse était à quelques kilomètres du camp où il était. Il a fait ceci. Il est allé vers le chef de camp et lui a dit « Les troupes américaines sont à quelques kilomètres. Comme je suis l'officier au grade le plus élevé de l'armée victorieuse. À partir de maintenant, c'est moi le chef de camp. Vous êtes donc mon prisonnier, vous allez vous désarmer et sous mon contrôle, immédiatement rassembler tous les gardiens dans une baraque. À son étonnement, le chef de camp allemand obéit. Et quand les troupes américaines arrivèrent, ils trouvèrent le camp ordonné, discipliné, les anciens prisonniers libérés, et ils n'ont eu qu'à prendre les Allemands et faire évacuer le camp. C'est impressionnant! Mais c'est une illustration fantastique! Beaucoup de chrétiens sont prisonniers d'habitude, de peur, de réticence, de péché en fait. Et ils soupirent après la liberté des vrais enfants de Dieu. Il a quelques kilomètres là! En fait, il a déjà gagné, ils ont déjà gagné la guerre! Nous avons un roi victorieux. Nous pouvons prendre sa promesse au sérieux et les ennemis seront désarmés dans nos vies. Le péché perdra toute sa puissance. La puissance du péché, c'est de vous faire croire que vous serez perdu. Mais on n'a pas un roi victorieux. Nous avons un roi victorieux. Amen, on pourrait dire, hein. Et c'est vrai. C'est vrai que la guerre n'est pas tout à fait finie avant le retour du roi. Dans le sens qu'il y a encore les maquisards. Mais la victoire est certaine et assurée, car le péché a été vaincu à la croix par ce bébé, ce roi qui est né dans une crèche, qui a grandi et qui a donné sa vie. Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le vivons vraiment? Une simple question prononcée par les mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette question nous parle de la naissance d'un roi. Un roi annoncé. C'est un roi qui est né et qui va revenir. Il l'a annoncé. Deuxièmement, un roi différent. Ce roi est né et il s'est donné pour ses sujets. Son royaume n'est pas de ce monde. Troisièmement, un roi rejeté. C'est vrai qu'il a été rejeté, mais nous pouvons l'accueillir. Et quatrièmement, un roi victorieux. Ce roi a vaincu l'ennemi. Il l'a vaincu. Irez-vous adorer ce roi comme les mages, les bergers, tous ceux qui ont fait confiance à cette nouvelle? Ou allez-vous vous détourner de cette nouvelle en essayant de sauver votre confort, vos acquis sociaux? N'hésitez pas cet après-midi à vous souvenir que ce roi différent a été annoncé. C'est vrai qu'il était rejeté, mais il est victorieux et nous pouvons l'accueillir. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est un privilège que nous n'avons pas mesuré, que nous avons de nous réunir devant toi, que nous avons de te parler, que nous avons de chanter des cantiques en ton honneur, que nous avons même de penser à toi, le roi de gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire ce matin que nous sommes heureux de faire partie de ton royaume. J'aimerais, Seigneur, te demander ce matin que pour ceux qui ne connaissent pas ce royaume ici, puissent apprendre à le connaître, puissent saisir que Christ est venu ici-bas. Il s'est humilié, non pas parce qu'il n'avait pas la puissance, non pas parce qu'il était en train de ne pas réussir ce qu'il voulait, non pas parce que les hommes l'empêchaient de vivre ce pourquoi il était venu, non. Il est venu humble. Il est venu souffrant, il est venu donner sa vie jusqu'au supplice pour justement accomplir la mission du roi. Eh bien, nous voulons te dire, Seigneur, nous pensons, Seigneur, à ta seigneurie. Seigneur, garde-nous soumis à toi. Et nous savons que dans ton royaume, nous vivrons ainsi la joie. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.